La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
C'est-à-dire il y avait trois puissants phares et au milieu il y avait une boule, c'est-à-dire un feu orange clignotant.
On ne peut certainement pas commencer à parler d'extraterrestres.
Il pourrait peut-être s'agir d'un engin militaire très sophistiqué.
Les observations visuelles au sol étaient quand même assez exceptionnelles.
Des lumières qui s'allument dans la nuit, qui se déplacent, qui s'arrêtent, qui d'un coup détalent, transperçant le brouillard d'un drôle d'hiver.
C'est le spectacle qu'ont vu puis raconté des centaines de Belges en 1989, lorsqu'une vague d'ovnis, d'objets volants non identifiés, a traversé le ciel belge.
Aujourd'hui, cette histoire fait un peu partie de notre folklore, un vieux souvenir, un peu effacé. Mais que s'est-il passé dans ces mois-là? Y a-t-il même eu quoi que ce soit dans le ciel belge?
Nous verrons que les vagues de témoignages sur les ovnis ne sont pas rares. La Belgique a donc eu la sienne. Alors ces vagues, parlent-elles du ciel ou parlent-elles de ceux qui le regardent? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cet épisode.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. On vous raconte donc cette semaine ce véritable mystère qu'ont été les ovnis belges.
Et avant d'y venir, ça vaut la peine de replacer un petit peu le contexte de l'époque. Cette vague, elle démarre dans l'espace médiatique, en tout cas dans les archives de la RTBF, le 30 novembre 1989. Les premiers témoignages ont été récoltés la veille. Les derniers témoignages datent de 1991, mais donc 29 novembre 1989, les lumières s'allument dans le ciel belge, 3 semaines après la chute du mur de Berlin, ce qui veut dire que le monde vient de vivre un événement historique très fort. L'URSS va bientôt s'effondrer, même si on ne le sait pas encore à l'époque. Une période d'instabilité est donc en train de s'ouvrir. C'est aussi, et ça vaut peut-être la peine de le noter, une période de boom technologique. Internet est en train de naître, le web, l'ordinateur personnel, etc. Tout ça arrive dans les maisons.
Pour raconter cette vague d'OVNI, un de ceux qui connaît sans doute le mieux le dossier en Belgique francophone et certainement à la rédaction de la RTBF.
Et on n'est pas peu fiers de l'avoir.
Oui, Franck Istas, bonjour.
Bonjour.
Responsable éditorial ici sur La Première et passionné, intéressé par les OVNI. Vous avez d'ailleurs produit un podcast, une série de podcasts sur le sujet Entre mystère et secret, la fascinante histoire des OVNI qui est toujours disponible sur les plateformes, sur Ovio en particulier. Podcast qui a eu pas mal de succès. Beaucoup de succès, c'est parmi les grands cartons des podcasts de La Première. Comment ça se fait que les ovnis continuent de fasciner?
Et ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, parce que finalement, ce qu'il y a, si les fantômes fascinent, par exemple, c'est parce qu'on se pose sur la question, existe-t-il une vie après la mort? C'est à ça que ça se résume. Mmh. Et les ovnis, je pense que c'est un peu pareil. On s'est dit, est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? Et ce serait bien triste si on était seul. On a envie qu'on ait des grands ou des petits frères de l'espace qui viennent nous visiter, même si on n'ose pas l'avouer. Je pense que c'est ça, le fond du succès des ovnis.
Et c'est ça qui a fasciné, certainement, à la fin de ces années 80 belges. On se replonge dans nos archives.
Nous sommes le 29 novembre 1989. Malgré le froid, la journée a été plutôt ensoleillée. Sur les hauteurs de Penne, une légère brume couvre le vert des prairies. Il est 17h20 et la nuit déjà est en train de tomber. Au volant de leur voiture siglée, uniforme bleu et cravate serrée, les gendarmes Hubert von Montigny et Heinrich Nicole patrouillent sur une route de campagne. Tout à coup, juste devant leur voiture, la prairie s'éclaire. Une lumière dense. 3 puissants projecteurs éclairent le sol depuis le ciel. C'est en tout cas ce que voit Heinrich Nicole.
À 17h24, on arrive au lieu du Libermé. À droite, au-dessus d'une prairie, on a vu un gros engin en l'air. Qu'on a pu identifier, mais avec des puissants phares dirigés vers le sol. On aurait presque dit un grand avion en forme de triangle.
Et il se trouvait à quelle hauteur?
Quasiment 200, 300 mètres d'altitude.
Et est-ce qu'il y avait d'autres manifestations particulières des lumières
Non, c'est-à-dire il y avait 3 puissants phares, un en tête et 2 comme sur les ailes, en dessous des ailes. Et au milieu, il y avait un feu orange clignotant.
C'est ça. Et pas de bruit?
pas de bruit.
Pas de manifestation bruit. De fumée, de réacteurs, rien du tout. Non, silencieux.
Silencieux, c'était silencieux. Nous avons décidé de continuer un peu plus vers, prendre le chemin à droite, qui n'est pas fréquenté, et de là, observer l'engin. Pendant que nous avons fait ce trajet-là, nous avons vu que l'engin est parti en direction d'Eupen.
Les deux gendarmes sont intrigués, ébahis. Ils sont dans la voiture, le moteur tourne. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, se disent-ils. Suivre cet étrange objet.
Alors nous l'avons suivi par un chemin de campagne jusqu'à la limite de notre territoire, c'est-à-dire Balen, au-dessus du couvent de Garnstock. Et de là, nous avons pu observer l'engin qui s'est arrêté au-dessus de la forêt, proximité du barrage de la Gilep, à hauteur de la tour qui était éclairée. Et l'engin est resté là. Subitement, est venu de notre droite un autre engin, de même dimension et même éclairage. Celui-là, il a remonté très vite en altitude, mais toujours entre 200 et 300 mètres. Et il est parti en direction vers l'Allemagne, donc vers l'autoroute.
Ce soir-là, Heinrich Nicole et Hubert von Montigny vont prévenir certains de leurs collègues. 13 gendarmes de la région rapportent avoir observé ces lumières, ces mouvements, depuis 8 endroits différents. Parmi eux, barbe grisonnante et lunettes fumées, il y a le gendarme Albert Kreutz.
Monsieur Kreutz, vous êtes en fonction le 29, vous êtes gendarme, rappelons-le. Vous avez été alerté par deux collègues que nous avons déjà interrogés sur l'apparition d'un ovni. Et puis vous-même, vous l'avez vu passer au-dessus de la gendarmerie.
Oui, à côté de la gendarmerie, disons à 200 mètres de la fenêtre. Il se trouvait très bas, je dirais à 100 mètres du sol et à 200 mètres de moi donc. C'était très impressionnant. C'était comme une grosse chambre éclairée, plutôt rectangulaire, les côtés peut-être arrondis, disons de 6 mètres de long ou 7 mètres même, et une hauteur de 2 à 3 mètres.
Drôle d'histoire, dont s'emparent rapidement les médias belges. Alors dans les heures, les jours qui suivent, près de 150 témoins se manifestent, notamment auprès de la SOBEPS, la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. Cette ASBL a été fondée en 1971, son but, documenter les phénomènes spatiaux et tenter de les expliquer. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent.
On ne peut certainement pas commencer à parler d'extraterrestres parce que ça, c'est extrêmement léger. C'est avancer très très loin, ça fait partie des hypothèses, des présomptions. En aucune manière, j'insiste là-dessus, les phénomènes observés, ça se limite au phénomène OVNI. Et OVNI, cela veut bien dire objet volant non identifié, dans la mesure où ils ne sont rattachables à quoi que ce soit de connu. Ça s'arrête là. La liaison classique que l'on fait avant, soucoupe volante, égale humanoïde extraterrestre ou martien ou ce que vous voulez, ça, je crois qu'il faut absolument en finir avec cela. Et il se passe des choses étonnantes, extraordinaires, en l'occurrence ici dans la région.
Il se passe des choses étonnantes, extraordinaires dans la région. Les membres de la SOBEPS en sont convaincus, même s'il n'y a pas de photos, pas de vidéos, pas de preuves probantes, juste donc ces témoignages par centaines. La SOBEPS a installé une permanence dans le centre de Penn et un numéro spécial avec un répondeur est mis en place.
Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone pour vous informer que mon mari a vu quelque chose de tout à fait incroyable la nuit de lundi 21 au mardi 22 aux environs de 11h30. Le soir, il est rentré, il était traumatisé par ce qu'il venait de vivre. Et il a vu un objet énorme avec d'immenses rayons lumineux qui l'a suivi pendant plusieurs minutes alors qu'il rentrait à la maison.
Les témoignages convergent. Tous se ressemblent un peu. Trois lumières blanches disposées en triangle. Au milieu, une lumière rouge qui clignote. Un objet volant, silencieux, stationnaire. Puis, qui peut détaler à toute vitesse. Les témoignages qui arrivent sont parfois antérieurs au 30 novembre. La veille, par exemple, à Bâtisse, Patricia Barbieux, jeune femme aux très longs cheveux blonds, est à table avec ses deux enfants. Dehors, il y a la balançoire blanche dans le jardin, les maisons du lotissement dans lequel la famille est installée. Et puis tout à coup, entre les rideaux de voile accrochés à la fenêtre, des lueurs apparaissent.
Mon fils a pensé à un camion, mais comme il n'y a pas de route, ce n'était pas possible. Alors on a fermé les lumières. Et on a vu que cet appareil arrivait et volait. Il a mis assez bien de temps pour venir jusque chez moi. Donc à ce moment-là, je voyais toujours deux gros phares. Et quand ça a été à peu près à mi-trajet, je dirais, Je n'ai plus vu qu'une grande masse foncée avec des petites lumières jaunes dans le centre, vraiment comme des petites étoiles.
Le même jour, à quelques kilomètres de là, Jacques de Bougny, père de famille entre deux âges, lunettes carrées sur le nez, roule en voiture. Il fait noir.
J'étais en voiture, j'ai vu un objet très lumineux qui était vers ma droite, à une faible hauteur.
Et qu'est-ce que vous voyez concrètement ?
Concrètement, je voyais simplement beaucoup de lumière. À un moment donné, cet objet s'est trouvé au-dessus de moi et à ce moment-là, j'ai pu constater qu'il y avait trois sources lumineuses.
Orientées
vers le sol, que cet objet se déplaçait très lentement et qu'il ne faisait absolument aucun bruit.
Et vous avez pu identifier un peu la
forme ? Je n'ai rien pu identifier, à part la forme donnée par les trois sources lumineuses, c'est ce qui donne un triangle.
Et au fond, qu'est-ce qui vous intriguait le plus ?
Ce qui m'intriguait le plus, tout compte fait, c'est qu'il n'y avait pas de bruit et qu'il était très lent. Ouais. Ensuite, j'ai pu l'observer jusqu'à mon retour à Aubel, où j'ai pu faire constater le phénomène par mon fils aîné et par mon épouse.
Quand il arrive à la maison, Jacques de Bougny, en effet, trouve son fils qui, dans un premier temps, ne le croit pas vraiment.
Alors, bon, il m'a raconté ça. Non, je lui ai dit, ah, écoute, ça peut être n'importe quoi, un hélicoptère. Il me dit, non, ça faisait pas de bruit, je suis certain. Enfin, et juste quand il me dit ça, moi, j'étais ici dehors, enfin, dans le garage, on me dit, tiens, ben, regarde, justement, c'est ça. Et effectivement, c'était un engin avec trois phares et un feu tournant. Et c'était assez impressionnant. Donc, il volait d'abord tout doucement, donc on le voyait avancer de cette manière-ci. Et puis tout d'un coup,
ça part. Une vitesse,
ah oui, une accélération terrible. Hein. Parce que même à des moments, donc sur la route d'Hambourg, on en voyait arriver deux à gauche, on les regardait, puis oh, plus rien. Puis on, ah ben le voilà. Et puis on le voyait tout à fait à un autre endroit, à l'endroit opposé. Donc c'est pas courant pour un avion.
Ce n'est pas courant. La somme des témoignages, le fait que plusieurs personnes voient ensemble la même chose, ça aussi, ce n'est pas courant. Les témoignages sont simples, sobres, pas de petits hommes verts, pas de messages venus du ciel, il y a juste ces lumières, ces masses qui volent. Certains témoins, comme Jacques de Bougny d'ailleurs, sont un peu gênés de raconter leur histoire. La peur d'être pris pour un fou, la plupart de ceux qui ont vu ces lumières dans le ciel cherchent une explication rationnelle.
Je ne veux pas déduire quoi que ce soit, puisque j'ai toujours été assez sceptique sur ce genre de phénomène.
Mais on parle d'une base américaine qui se trouve pas tellement loin de la frontière en Allemagne.
Oui.
Et
c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être s'agir d'un engin militaire très sophistiqué et dont les essais se feraient au-dessus de chez nous.
S'agit-il d'un phénomène météorologique ? D'un avion furtif, d'essais militaires. Nous sommes fin novembre 1989. Le mur de Berlin est tombé trois semaines plus tôt. L'heure est au dégel des relations avec l'Union soviétique. Dans l'armée, le colonel Bilen ne croit pas à la théorie de l'essai militaire.
Je ne vois pas l'intérêt de faire des essais uniquement dans cette région-là, ni au départ d'où d'ailleurs. Je crois aussi que, étant donné le contexte politique international de détente, je crois qu'il serait vraiment illusoire de poursuivre de tels raisonnements. Moi, je me permets pratiquement à ce niveau-ci d'exclure quasi à 100% ce genre d'essai, si je puis dire, d'avions espions ou d'avions de la quatrième génération presque.
Alors que le mystère reste total, les membres de la SOBEPS continuent de collecter les témoignages. Entre 50 et 80 enquêteurs volontaires sont mobilisés. Ils reçoivent en tout 2000 témoignages, dont 1000 seront exploités. Parce que dans le ciel wallon, les observations continuent à tel point que l'armée entre en piste. Les semaines passent, les chasseurs F-16 sont autorisés à décoller en cas de phénomène inexpliqué. Et ils vont le faire, notamment le soir du 30 mars 1990. Un rapport de l'armée de l'air détaille les événements de cette nuit-là. Vers 23h, trois lumières apparaissent dans le ciel de Torrambejan-Bloux, en Brabant wallon. Elles changent de couleur, passant du rouge au vert au jaune, et semblent être fixées au sommet d'un triangle équilatéral. Une patrouille de la gendarmerie de Wavre est envoyée sur place à 23h30. Les gendarmes confirment les observations. au même moment. À 80 km de là, les radars de la base militaire de Glon observent eux aussi le phénomène. Peu avant minuit, le commandement militaire de Glon donne l'ordre de faire décoller deux F-16 depuis la base de Beauvechain. Dans l'heure qui suit, les deux avions tentent de prendre les lumières en chasse et parviennent à un résultat. Des images, des objets apparaissent sur les radars des avions. Par deux fois, les F-16 parviennent à verrouiller leur cible, puis elle disparaît à toute allure, dépassant même la vitesse du son, mais sans bang sonique. L'armée fait même une conférence de presse pour évoquer ses observations. Dessin à l'appui, le colonel Brouwer commente.
Ce qui est le plus troublant, tout d'abord, les observations visuelles au sol étaient quand même assez exceptionnelles.
Il y avait une vingtaine de gendarmes, je crois.
Entre autres, oui. Et en même temps, on a quand même détecté un comportement en l'air sur les écrans radar qui n'était pas conventionnel, je dirais.
Et il y a eu corrélation entre les observations des deux chasseurs qui étaient en vol et des stations radar au sol.
En effet, il y a eu une corrélation.
C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel.
Cette soirée du 30 mars 1990 est un des points culminants de la vague d'OVNI belge. Elle a perduré jusqu'en 1991, puis les lumières se sont éteintes.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, on va tenter de comprendre cette vague d'OVNI dans le ciel belge entre 1989 et 91 avec vous, Franck Istas. Vous êtes donc journaliste et vous vous êtes intéressé pas mal à cette question des OVNI. Vous avez même produit un podcast qui est toujours disponible pour ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup à cette question, plusieurs épisodes. Mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose dans le ciel belge?
Et ça, ce serait bien présomptueux de ma part de pouvoir répondre oui ou non. Je vais vous dire, pour paraphraser un ufologue qui était célèbre, je dirais que cette vague belge, mais c'est un peu la même chose pour moi avec les ovnis en général, le lundi et le mardi, j'y crois, le mercredi et le jeudi, j'y crois plus du tout, et le vendredi, je me repose des questions et je recommence ma semaine suivante. C'est très compliqué parce que, objectivement, et le reportage que vous avez diffusé, les archives étaient extrêmement bien faites, mais il n'y a pas de véritable preuve qu'il y a eu quelque chose. Il n'y en a pas.
Il y a quand même eu des photos.
Il y a des photos. Il y a eu une photo très célèbre, mais qui s'est avérée être un canular et un faux. On parlait des radars ici. En fait, si on rentre dans le détail, ça n'est pas une vraie preuve. Il n'y a pas de preuve qu'il y a quelque chose ce soir-là.
Les radars du F-16,
oui. Mais il vous reste, par contre, et c'est ça qui est très embêtant dans cette vague, comme toujours dans les témoignages OVNI, parce que ça date depuis des années, que c'est comme ça que ça se passe, ce sont les témoignages. Vous avez à un moment donné, alors on dit que c'est de 89 à 91. C'est peut-être moins long que ça, c'est difficile à estimer parce qu'il y a sans doute eu de la contamination médiatique et qu'à un moment donné, on parlait beaucoup d'OVNI et donc à ce moment-là, les gens regardent le ciel et peut-être qu'ils confondent des choses, ça c'est bien possible. Il y a eu des mauvaises interprétations, mais quoi qu'il en soit, dans les premiers mois, il y a eu énormément de gens qui ont décrit des choses étonnantes.
Est-ce que tout le monde décrit la même chose?
Non. Alors, en grande partie, ça c'est vrai, en grande partie, on parle d'un triangle en Belgique, mais ce n'est pas toujours le même triangle. Des fois, il n'a pas les mêmes feux, des fois, il n'y a pas cette lumière au centre, des fois, elle est rouge, des fois, elle est orange. Mais il y a eu d'autres formes aussi. Et ça, on en parle un peu moins.
On entendait une grande chambre.
Oui, bien sûr. Par exemple, si vous prenez cette première nuit du 29 novembre, vous avez les gendarmes. La première patrouille de gendarmes, elle voit plus ou moins une forme triangulaire. Mais le monsieur Kreutz, qui lui est au dispatching de Penn, il voit une arche qui passe. À l'époque, il parle d'une arche, il voit un rectangle. Il ne voit pas la même chose. Et vous avez une autre patrouille de gendarmes qui, cette nuit-là, fait une observation encore plus impressionnante près d'un home. Et eux-mêmes, si vous relisez les témoignages dans le premier volume de la Sobeps qui est sorti, il y en a un qui décrit un long objet d'une quinzaine de mètres qui est plutôt effilé. Et il a même l'idée qu'il s'agit d'un dirigeable. Et l'autre, lui, décrit un énorme triangle, un trapèze. Donc, attention, le témoignage humain, il est ce qu'il est, il est faillible.
Alors, ce qui est quand même assez marquant, c'est que effectivement le témoignage humain, il est faillible, mais là, les gens racontent aussi des témoignages collectifs. Ils sont plusieurs au même endroit, au même moment, et ils disent tous ensemble, et ils en parlent entre eux, on a vu la même chose. Ça, c'est quand même particulier.
C'est vrai, mais je ne vais pas critiquer la Sobeps loin de là, parce que j'ai fait leur connaissance au cours des années, pas au moment de la vague belge. Moi, j'avais 14 ans, j'étais jeune à l'époque, mais par après, j'ai fait d'autres reportages, je les ai rencontrés. Je pense que ce sont des passionnés très curieux, qui ont cette envie de découvrir, etc. Mais c'est eux qui récoltaient énormément de témoignages à l'époque. Et donc, vous l'avez dit, il y a à un moment donné eu 50 volontaires qui ont fait les enquêtes de la SEBEPS. Mais ce ne sont pas des vrais professionnels. En fait, ça n'existe pas, hein, des professionnels des ovnis. C'est l'ufologie, la discipline qui s'intéresse aux ovnis. Ce n'est pas une science. Hein. Il n'y a pas vraiment de méthodologie. On va rencontrer des témoins, etc. Donc, est-ce qu'ils ont récolté autant de témoignages? Est-ce qu'ils ont bien récolté les témoignages? Sans doute que oui, à certains moments, mais sans doute que non aussi. Sans doute que leur méthode était faillible. Ce sont des gens qui étaient bénévoles. Hein. Ce n'était pas un organisme d'État, c'était une ASBL. Donc, c'est... Non, vous avez fini votre travail, vous devez aller jusque peine, rencontrer des gendarmes, leur poser des questions. Il faut le vouloir, quoi. Donc, je pense que... Il n'y a pas eu une étude vraiment cohérente, scientifique, précise, carrée, qui a été faite à l'époque. Il nous manque pas mal de données. Et je pense que ça aurait été impossible à faire parce qu'il n'y avait pas d'organismes qui peuvent s'occuper de ça. Et encore maintenant, hein, ça n'existe nulle part dans le monde.
Alors, on a entendu ce récit. Et vous disiez, il y a certaines choses, les radars par exemple, où on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Ce récit, la séquence, elle provient de nos archives. Donc, c'est ce qu'on disait à l'époque.
Oui.
Qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui?
Mais on le savait déjà à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on ne creusait pas... Effectivement, l'armée va faire une conférence de presse et ça, c'est un coup de tonnerre dans le monde médiatique, mais surtout ufologique. Vous avez
et instance... partout dans le monde, hein, parce oui, que c'est rare que l'armée intervienne.
Jamais, ouais. En règle générale, l'armée, quand elle intervient, c'est pour dire c'est bidon, c'était une mouche ou on a confondu avec un réverbère. Ici, vous avez le colonel de Brouwer de l'armée qui donne une conférence de presse qui dit voilà, on a enregistré ça.
Oui, il y a des dessins, hein, on voit dans
et ça
les images.
Ça ne s'explique pas. Une fois que vous dites ça, évidemment que ça, c'est ça. Hein, qui va vraiment faire connaître cette vague belge dans le monde entier. Ceci dit, des gens de la SEBEPS, déjà à l'époque, avaient remarqué que, donc, il y a des témoignages, il y a un témoignage dans la région de Wavre. Déjà, il faut savoir que les F-16, on les a envoyés plusieurs fois et qu'ils se sont plantés. On a envoyé les F-16 parce que les gens voyaient des lasers d'un dancing dans le ciel. Donc, comme quoi, il y a moyen de se tromper avant d'envoyer des F-16. Et deuxièmement, cette fameuse soirée-là, eh bien, oui, des témoins ont vu quelque chose et des gendarmes ont confirmé. Des gendarmes de la région de Wavre, si j'ai bonne mémoire. Sauf qu'on savait, déjà à l'époque, en réfléchissant, des gens de la SEBEPS, des enquêteurs, parce qu'ils ont parfois des enquêteurs costauds quand même, hein, qui s'y connaissent en triangulation, etc., des étoiles, disaient en fait ils se sont plantés avec des étoiles. Et moi, je suis convaincu que ces gendarmes se sont plantés avec des étoiles. Donc, cette confirmation par les gendarmes, à ce moment-là, elle est fausse. Et donc, on envoie les ovnis dans la région, mais sur une fausse confirmation de gendarmes. Alors oui, des radars au sol ont eu des échoradars étranges, mais les deux F-16 dans le ciel, ils ont des échoradars différents de ces radars au sol. Et surtout, il y a un des radars du F-16 qui ne fonctionne pas. Et en gros, bah, si ça se trouve, il n'y avait rien. Les pilotes de F-16, ils n'ont jamais rien vu en visuel ce soir-là.
Voilà, parce qu'il faut dire aussi qu'un radar de F-16, ouais. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui filme.
Non.
C'est ce qu'on a, c'est une modélisation de la réalité.
Exactement. Et alors, sur ces images radar que vous voyez, bah, par moments, ça décroche. Donc, ils perdent l'éco-radar. Ils doivent le retrouver. C'est vrai que ça fait des manœuvres de dingue, des accélérations de dingue. Le pilote de F-16, qui s'appelle Yves Melberg, c'est qui a donné de nombreuses interviews que j'ai rencontrées plusieurs fois, c'est quelqu'un de charmant, de très professionnel. C'est un top pilote. Hein. Je veux dire, c'est pas des manches hein, qu'on envoie piloter nos F-16, etc. Lui, il est convaincu d'avoir poursuivi quelque chose. Et je lui fais confiance. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est mieux placé, c'est lui. Lui, il était dans le cockpit. Il n'empêche qu'une fois qu'il l'a atterri, et malgré cette conférence de presse, ce n'est pas une preuve absolue, ces échoradars. Ça ne peut pas être accepté comme une preuve.
Donc la vague belge, elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup de témoignages.
Oui.
Il y a des gens sérieux, notamment de l'armée de l'air, qui ont parlé, qui renforcent le fait que l'interrogation, tiens, il s'est passé quelque chose, quoi, on ne sait pas, mais quelque chose. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est wallon.
Oui.
Il n'y a pas eu en Flandre, il n'y a pas eu en France, il n'y a pas eu en Allemagne.
Exactement.
C'est un phénomène
des
culturel wallon.
Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
C'est même pas bruxellois, quoi. Je dis wallon parce que c'est sur le territoire de la Wallonie.
Exactement. C'est le Sillon sans Brémeuse. C'est très étrange. C'est vraiment, là, pour le coup, extrêmement localisé. Et d'ailleurs, à un moment donné, donc, on parlait des F-16, on envoie des F-16, ça coûte quand même un peu d'argent d'envoyer des F-16 dans le ciel. Hein.
À l'époque, on en avait un peu plus que
c'est
maintenant.
C'est pas donné. Oui, mais sauf que des parlementaires flamands ont dit on va peut-être arrêter. Ah, et c'est à cause de ça qu'on a arrêté, parce que justement, on n'en avait pas en Flandre. Nos ovnis étaient wallons. Alors, c'est assez inexplicable parce que le territoire belge, il est tellement petit que si vous venez d'une autre planète, si on va prendre cette explication-là, je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas de l'autre côté. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y avait à observer au-dessus de Verviers, au-dessus de Penne, au-dessus d'Aubel? Moi, j'étais dans ces régions-là, c'est magnifique, c'est très joli. Mais je ne vois pas ce qu'un engin top secret ou des gens d'une autre planète viendraient regarder dans cette région-là.
Alors c'est marrant aussi que, et vous le disiez, ça se passe à Eupen. Eupen, c'est juste à côté de la frontière allemande. Le mur de Berlin vient de tomber.
Oui.
Est-ce que pour vous, le fait qu'on soit dans cette situation géopolitique, ce contexte international qui est quand même très secoué, on est dans une période d'instabilité, est-ce que ça, pour vous, ça peut jouer ?
Mais je pense que oui, et ça m'a toujours étonné que dès 1989, personne n'ait parlé de ce contexte politique et de la chute du mur de Berlin et de notre proximité avec des bases américaines, etc. On a très vite balayé d'un revers de la main l'hypothèse d'un prototype secret. Parce que le prototype secret auquel on faisait allusion, c'était le fameux F-117, hein, le bombardier américain, mais qu'on connaissait déjà, qui était connu des spécialistes de l'aviation. Et c'est vrai que cet avion, bah, s'il vole à moins de 200-300 km/h, je pense, il s'écrase. C'était mal parti pour expliquer les ovnis belges qui font du surplace à une centaine de mètres sans faire de bruit. Mais il n'empêche, on aurait pu tout à fait, on pouvait envisager une panoplie, et il y a des spécialistes qui les envisagent encore, d'hypothèses.
D'essais militaires ?
Oui, quand vous voyez certains drones ou certaines capacités de drones aujourd'hui, franchement, ça pourrait expliquer certaines parties des observations qui ont été faites en 89.
Mais pourquoi ? On n'explique toujours pas pourquoi ça a eu lieu sur notre territoire, à Wavre.
Ah, ça, moi, je ne suis pas
dans autour de terrain d'entraînement. C'est ça que je veux dire. Toutes les hypothèses qu'on a pu. Il n'y en a pas une qui est très solide ou
et
plus solide que l'autre.
Et pas justement un essai ciblé de voir si on fait voler un prototype secret, pourquoi pas voir comment vont réagir les médias, comment vont réagir les populations.
Et l'hypothèse culturelle, le fait qu'il y ait une sorte de contamination, quelqu'un qui dit à un moment donné, tiens, j'ai vu quelque chose, et puis, ah ben moi aussi j'ai vu quelque chose, parce qu'on se copie, quoi.
Je pense que ça peut expliquer la deuxième partie de la vague belge. Hein. Et d'ailleurs, bah voilà, on en parlait à l'instant, il y a une contamination. Est-ce que les gendarmes, on leur dit, apparemment, il y a quelque chose de bizarre dans le ciel, et ils voient quelque chose, et en fait, ils voient des étoiles. Donc, franchement, c'est possible que certains témoins se trompent et sont de bonne foi et très sincères dans la façon dont ils délivrent leur témoignage, mais se trompent complètement. Quand vous entendez dans vos archives des témoins qui disent, et je vous invite à faire l'exercice, « Ah, ben, de nuit, là, il était à 200 mètres de moi, et il était à 100 mètres de hauteur. » Bonne chance, c'est totalement. Moi, j'ai passé mon temps à ça, essayer de balader vue dans la rue et essayer de trouver la hauteur d'un bâtiment, d'une maison. Vous ne trouverez pas. Alors, en plein de nuit, c'est impossible d'évaluer les distances. Donc, peut-être qu'en fait, que l'OVNI qu'il croit être à 200 mètres, c'est un engin beaucoup plus petit qui serait seulement à 30 mètres ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire. Et au-delà de ça, ces vitesses, par exemple, fabuleuses de démarrage des OVNI, si vous avez deux OVNI, un qui est éteint au loin, un qui est allumé près de vous, vous éteignez celui qui est plus près, vous allumez celui qui est plus loin et vous allez pouvoir créer l'illusion d'un déplacement rapide. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a des prototypes américains où, justement, pour donner cette impression de vitesse, il y a des lumières sur le fuselage de ces engins ou de ces drones qui apparaissent et disparaissent pour donner cette impression de vitesse. Donc, je privilégierais d'abord ces hypothèses de prototypes plutôt que des hypothèses extraterrestres en Belgique.
Pour vous, s'il y a eu quelque chose dans le ciel belge, c'est plutôt quelque chose de type essai militaire et puis contamination au sein de la population.
Mais le délire total, vous n'y croyez pas, quoi.
Je vais vous avouer quelque chose. À force de... En fait, moi, je m'intéresse aux ovnis depuis que je suis tout petit. Et je lis des bouquins là-dessus, et tous les bouquins qu'il faut lire là-dessus, je crois que je les ai lus. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est comme ça. Et en fait, au final, à mon âge, je vais bientôt avoir 47 ans, je m'intéresse plus aux ufologues qu'aux ovnis. Et finalement, je ne me pose plus tellement la question de savoir si c'était un prototype secret ou des extraterrestres, parce que je pense qu'on ne trouvera jamais la réponse. Je pense qu'on peut chercher encore pendant 50 ans.
Il n'y a pas de réponse.
Non, et on ne trouvera pas la réponse des ovnis de 47, ni ceux de 54, ni je pense que c'est impossible. Je pense qu'on ne trouvera pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce genre de vague commence. Parce qu'il faut quand même bien se rappeler qu'un acteur central de cette vague, c'est la SOBEPS. À l'époque, on commence à dire qu'il y a des ovnis. Et ce qui marque, c'est que ce sont des gendarmes, les premiers témoins. Donc, il y a un atout de crédibilité, on va dire, là-dedans. Donc, les médias s'y intéressent. Si ça n'avait pas été un gendarme, je ne sais pas si on s'y serait intéressé. Puis alors, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devoir faire des sujets là-dessus, des reportages. Bah, ils se retournent vers ceux qui s'intéressent à ça. Et en Belgique, on n'a que la SOBEPS. Et la SOBEPS, bah, ce sont quand même des gens qui sont passionnés par les ovnis et donc qui peuvent avoir induit. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'un des acteurs principaux de cette vague, c'est la SOBEPS.
Est-ce que si il n'y avait pas eu la SOBEPS et s'il n'y avait pas eu les médias belges qui s'y étaient intéressés, est-ce qu'il y aurait une vague d'ovnis ?
Eh ben, c'est peut-être la bonne question et la seule question qu'il faut se poser. Mais je ne sais pas si on pourra y répondre parce qu'on n'a pas assez d'archives et assez de données par rapport à ça. Mais effectivement, si vous n'avez pas la SOBEPS, bah, peut-être que la vague d'ovnis, elle fait pchit, on a deux témoignages et demi et puis ça s'arrête tout de suite, quoi.
C'est vrai que c'est intéressant de constater quand on regarde ces archives, ce que j'ai fait évidemment pour préparer cette séquence. En réalité, ce sont toujours les mêmes experts qu'on voit revenir. C'est un physicien C'est la SOBEPS et c'est le colonel Breuer qu'on a entendu. Donc on retrouve en réalité les mêmes experts sur tous les mois que dure cette vague.
Ça, comme, si on est juste, comme on retrouve les mêmes experts, par exemple,
sur le Covid, etc.
Sur le Covid ou quand on fait les élections. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir ça, que le monde académique, vraiment scientifique belge, au bout de quelques mois, a pété une durite parce qu'on voyait les gens de la SOBEPS dans les médias et il y a eu des lettres communes de physiciens belges, de scientifiques belges qui ont dit en fait c'est n'importe quoi, comment est-ce qu'on donne la parole à ces gens-là et tout est faux, ce sont des méprises et les gens... Mais c'était très méprisant et c'était pas très ouvert scientifiquement non plus, je trouve. En fait, c'est vrai qu'on peut reprocher des choses aux gens de la SOBEPS et vous avez des scientifiques au sein de la SOBEPS, mais c'est pas parce que vous êtes scientifique que vous êtes croyant ou non croyant dans les ovnis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais eux, au moins, ce que je trouve sympa chez eux, c'est qu'ils ont gardé cette curiosité et qu'ils se disent « Tiens, il y a un truc bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Mais vous savez, les ufologues, et j'en connais très bien, je leur disais, une personne normale, on va dire « Tiens, hier, il y a un ours blanc qui est rentré dans ce studio. » Vous allez me dire « Bah non, c'est pas possible. » Un ufologue, il va vous dire « Mais il est rentré par quelle porte ?» Parce que pour lui, c'est l'impossible est possible tout de suite et on va essayer de l'analyser. Pour un scientifique, pour les physiciens belges, notamment l'université de Liège à l'époque, il y avait un rejet complet du témoignage populaire. Les gens, entre guillemets, ne pouvaient pas avoir les connaissances académiques nécessaires pour observer des phénomènes astronomiques. Et donc, il y a eu cette espèce de match, de fight entre les deux. Mais c'est vrai que les médias ont énormément donné la parole à la SOBEPS. Et la SOBEPS, c'est bien entendu avec l'armée aussi. Parce que vous avez le colonel de Breuer, qui était quelqu'un de super, qui vit toujours d'ailleurs, et qui... Mais dans ses propos, on entend qu'il y a quand même cette notion de mystérieux ou qu'il aimerait... On le sent, on l'entend. Et c'est pas un défaut. Moi, je critique pas ça. Mais peut-être que ça influence la donne.
Est-ce qu'il y a un profil de gens qui sont témoins d'OVNI dans le ciel?
Alors là, malheureusement, et c'est ça, moi, qui m'embête dans cette vague, je dirais non. Parce que je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait cette série sur les OVNI à la radio, il y a un technicien de la première qui est venu me voir et qui m'a dit « Franck, je n'en ai jamais parlé, mais à l'époque de la vague belge, il y a un truc énorme qui nous a survolé. » Mais alors, je dis « Mais attends, énorme, quelle taille ?» Et là, il m'explique, il me montre un bâtiment par la fenêtre qui a la taille du bâtiment de la RTBF. Et il m'explique que c'est à 40 mètres. Et des gens comme ça, mais j'en ai rencontré plein. Et ce sont des gens qui ne croient pas, qui s'en foutent, qui ne s'intéressent pas à la science-fiction et qui, du jour au lendemain, sont propulsés dans un truc qu'ils ont vu et qui ne comprennent pas. Et le plus bel exemple que j'avais dans cette vague belge, c'était un colonel de l'armée, il s'appelle le colonel André Hamon, dans la région d'Hernage. Lui, j'ai passé une journée complète avec lui sur les lieux de son observation. Et si on pouvait m'expliquer juste celui-là, parce que ce monsieur, je parierais ma vie, ne ment pas. C'est un ingénieur civil. Alors, je viens de vous dire que l'argument d'autorité... Mais là, pour le coup, lui, c'était pas du tout un farfelu. Et ce qu'il a vu, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, encore aujourd'hui, même avec un drone, reste très compliqué à expliquer. Et dans cette vague belge, hein, franchement, vous n'avez pas beaucoup de farfelus qui ont été expliqués qu'ils avaient vu des bonhommes qui descendaient. Jamais. Ça ne s'est d'ailleurs jamais posé en Belgique. Ce qui est très étonnant pour une vague.
On n'a pas eu de rencontre du troisième type ou quatrième type, j'ai oublié le nom.
Vous avez une vague très célèbre en France qui date de 1954. Et là, vous avez pendant deux mois...
Ah, dans le sol. Ça.
Un peu après, mais en 54, c'est vraiment quelques années après les débuts de l'ufologie moderne en 47. Là, ça se pose. Il y a des bonhommes qu'on appelle des ufonautes qui ressemblent à des petits scaphandriers qui se baladent partout et qui rencontrent des témoins. Mais on parle de milliers de témoignages. En Belgique, jamais. C'est très humain, moi, je trouve, les ovnis belges. C'est un triangle, c'est quand même pas loin d'un avion. Il y a une lumière qui clignote, ça ressemble quand même à des signaux qu'on peut faire. Mais ça fait pas de bruit, ça fait du surplace et puis ça accélère. Et ça s'explique pas.
La première. L'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Franck Istas, on continue à parler avec vous de ces ovnis qui parfois apparaissent dans le ciel par vagues en Belgique et ailleurs. Vous parliez des tout débuts de l'ufologie, 1947. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça commence? Depuis quand est-ce qu'on voit des ovnis dans le ciel?
Alors, il y a un consensus en ufologie pour dire, donc l'ufologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux ovnis, c'est pas une science, hein, c'est toujours bien de le rappeler, pour dire que l'histoire moderne des ovnis, elle commence le 24 juin 1947 avec une observation au-dessus du Mont Rainier dans l'état de Washington par un pilote qui s'appelle Kenneth Arnold, c'est un civil, il va voir 9 disques brillants qui volent à plus de 2000 km/h, ce qui pour l'époque est impossible vu qu'on n'a pas encore dépassé le mur du son. Et à partir de là, énorme écho médiatique, on va trouver le mot soucoupe volante, flying saucer. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Il va décrire aux médias que ces objets ricochaient comme des soucoupes sur l'eau. Il n'a jamais dit que c'était des soucoupes. Et les médias vont dire que ce sont des flying saucers, des soucoupes volantes. Et ce qui est quand même marrant, c'est qu'à partir de là, on va voir des soucoupes volantes. Donc ça commence déjà par une petite méprise. Première grande vague. Mais si vous remontez, vous avez des ovnis de tous les temps. Vous avez des témoignages qui datent de 1896 aux États-Unis. Il y a une grande vague d'objets volants non identifiés en 1896. Mais ça ressemble à des dirigeables avec des lumières étranges, mais qui, une fois de plus, sont des objets... Il y a peut-être des dirigeables à l'époque, mais qui n'ont pas ces caractéristiques-là, etc. Et si vous croyez certains ufologues, eh bien, il y a des traces dans l'archéologie, dans les peintures du Moyen-Âge, même dans la Bible, si vous voulez, de présence d'objets volants lumineux qui descendent nous voir pour... Et on a des échanges avec leurs occupants, etc. Donc c'est sans fin.
Ces vagues, elles apparaissent tous les combien de temps?
Ah, ça, c'est difficile à dire. Ça dépend. Vous avez des... C'est un éternel recommencement, en fait, l'ufologie. C'est un petit peu... Vous savez, là, pour l'instant, on s'excite depuis 2-3 ans avec les ovnis qui ont été authentifiés. Enfin, en tout cas, ces fameuses vidéos d'ovnis prises par des pilotes américains qui ont été... authentifié par l'US Air Force, si je ne dis pas de bêtises, et le Pentagone.
Et rendu public.
Et rendu public.
Parce que ça, c'est nouveau.
Oui.
De la part de l'US Air Force.
Oui, mais par exemple, je vais vous dire, en 1947, après cette observation, là, pour le coup, on est vraiment au début de la guerre froide, hein, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, et les Américains, ça les fait pas rire de voir que leur ciel est survolé par des choses qui ont des possibilités techniques et de vitesse incroyables. Et donc, ils vont créer des commissions d'enquête. La première commission d'enquête, qui est créée en 1948, si j'ai bonne mémoire, c'est le projet SIGN, la commission soucoupe. Et les conclusions, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils ont des pilotes vraiment aguerris, des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui font des observations, mais de dingue, des gens très sérieux, comme notre pilote de F-16 belge. Mais là, donc, les Américains sont très inquiets. Et cette commission, bah, là, au début, elle va dire, bah, c'est pas nous, c'est pas les Russes, ça peut pas être eux. Ça vient d'ailleurs, c'est vraiment exotique. Donc en gros, il n'y a pas tellement de différence avec ce qui se passe depuis 2-3 ans aux États-Unis. Sauf que oui, vous avez une authentification, on va dire, du Pentagone. Mais en 1947, les données sont déjà là. Ça se répète. L'ufologie, c'est un éternel recommencement.
Et là, aux États-Unis, il y a une nouvelle vague?
Oui. Non. Non, 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 non. Il y a énormément d'engouement autour de ces vidéos, si je ne dis pas de bêtises, qui sont sorties sur YouTube, etc., et sur le web en 2004, et qui ont été authentifiées, reconnues en 2017-2018, suite à un article du New York Times. Et là, on se dit, waouh, c'est le New York Times, ça doit être sérieux. Eh bien, creusons un petit peu. Par exemple, une des personnalités qui est à l'origine de cet article, c'est une certaine Leslie Kean. Leslie Kean, je peux vous dire qu'elle est extrêmement bien connue dans le monde ufologique, mais alors dans le genre croyante, on est dans l'ultra-croyante. Elle a même été, je pense, si je ne dis pas de bêtises, en couple avec un spécialiste des enlèvements extraterrestres. Donc, vous avez toujours dans ces histoires, à un moment donné ou l'autre, des personnalités qui, même si elles sont bienveillantes, sont extrêmement orientées dans leurs hypothèses et dans leurs croyances.
Mais en même temps, ces vidéos-là, c'est quand même une première, non? Parce que les photos, bah, vous avez dit, les quelques photos qu'on avait étaient truquées, ou en tout cas, il y a eu, parfois, on a pu prouver qu'elles étaient truquées, ou en tout cas, on doute de leur authenticité en Belgique. Et puis ici, on a des vidéos, c'est pas le faux Roswell de Jacques Pradel, quoi.
Non, bien sûr.
Coup monté, parce que ça existe beaucoup dans l'ufologie, des faits qui ont fait
Mais des films devenus vraiment interpellants, qui sont très vieux, on en a, hein. Il y a Utah, dans l'Utah, dans le Montana, dans les années 40, 50, etc. Où des gens se disent, mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce que ça peut être? Et moi, ce qui m'amuse ici, c'est que je suis en contact avec des ufologues qui s'excitent là-dessus. Alors, vous en avez dans les ufologues aujourd'hui qui sont désabusés, hein, et qui vous disent, de toute façon, ça y est. Parce que si vous suivez en plus ce qui se passe, on va dire, ça y est, là, si l'armée reconnaît ces vidéos aux États-Unis, on est proche d'une grande révélation. Ça y est, c'est la fin du secret, on y arrive.
Ah oui.
Ça, c'est un discours qu'on entend en ufologie, mais depuis toujours. Hein. Depuis le début, on a dû avoir 350 000 révélations, on n'en a aucune. Et finalement, ici, ça fait 3-4 ans que ces vidéos sont sorties, il ne se passe pas grand-chose.
On dit ça va arriver, on va avoir le fin mot de l'histoire,
enfin,
et puis ça fait pchit.
Et ça fait pchit. Vous avez, si vous suivez, toujours le même pilote qui est interrogé dans les médias. Parce qu'il y en a plein des pilotes qui ont vu ça, mais c'est toujours le même pilote par rapport à ces vidéos. Et ensuite, est-ce qu'il y a vraiment... Moi, je n'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai quand même un travail. Hein, donc, mais est-ce qu'on a vraiment analysé ces vidéos pour dire, mais c'est quoi la vitesse? C'est quoi? Il y a des gens qui le font. Hein. J'ai vu des pilotes qui s'intéressent aux ovnis qui ont fait ça sur leur chaîne YouTube, qui disent, bah là, le truc qu'on voit, ce n'est pas si impressionnant que ça. Ce n'est pas des vitesses si incroyables que ça. Donc, en gros, ce fameux tic-tac qu'on voit, enfin, qu'on ne voit pas celui-là pour le coup, mais il est question d'un tic-tac volant, etc., ça pourrait être un drone. Ça pourrait être un drone. Et en plus de ça, c'est un truc qui vole aux alentours d'un porte-avions américain. Donc ça pourrait tout à fait être un drone chinois russe, qu'est-ce que sais-je, moi, hein, je veux dire, de l'espionnage pour la technologie, ça, ça existe. Voilà, voilà.
Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait un nouvel engouement ces dernières années pour les ovnis, est-ce qu'on peut lier ça au contexte actuel ?
Je crois qu'il y a toujours eu de l'engouement pour les ovnis. Je pense que c'est les médias qui, par moments, font un focus plus violent ou pas. Je pense que c'est peut-être pour ça que les vagues existent, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être parce que les médias s'y intéressent plus à un moment donné qu'à un autre. Mais c'est vrai que c'est marrant. Vous parlez de ça dans une réunion avec des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui ne savent même pas que ça existe. Tout de suite, ils vont être intéressés, en règle générale. Mais ce qui est marrant, pas plus tard que ce week-end, je mangeais chez des amis qui n'y connaissent pas grand-chose en OVNI et qui me demandaient des choses... c'était sur la vague belge, justement. Et sans mentir, sans tricher, mais je me rends compte qu'en donnant certains éléments seulement, hop, ils vont y croire. Si je donne d'autres éléments, sans tricher non plus, ils vont se dire, ah ben non, alors il y a une explication. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment en fonction de ce qu'on raconte qu'on peut orienter des éléments qu'on prend ou qu'on ne prend pas, qu'on peut orienter la croyance ou la conviction des gens qui vous écoutent.
Oui, donc on parlera encore d'OVNI. Le secret ne sera pas
jamais
dévoilé.
Ah non, moi je suis sûr.
Pour les prochaines années.
Et pour la petite histoire, la SOBEPS n'existe plus. Hein, ils ont dissous leur association. Ça s'appelle le COBEPS. C'est un comité maintenant avec un ancien ufologue, vraiment un des pionniers de l'ufologie en Belgique, qui s'appelle Patrick Ferrin. Et là, il bosse sur un... Il a de nouveaux collaborateurs qui sont tous super et ils se disent on va réétudier uniquement la nuit du 29 novembre 1989. Comme ça, on ne pourra pas nous accuser de contamination médiatique. Et ils réétudient minute, seconde par seconde, enfin avec ce qu'il leur reste, etc. Et je trouve ça génial, je trouve ça super que 30 et des ans après, ils soient toujours passionnés par ça. Mais je lui dis, je pense que tu ne vas pas trouver la solution. Hein. Je pense que même dans 40 ans, on l'aura parce que je pense que c'était impossible à trouver. Eh bien là, la réponse que vous avez, c'est ce qui compte, c'est le chemin, pas la réponse. Je pense que c'est pas mal, en fait, comme philosophie.
On retiendra, en tout cas, que pour une vague d'OVNI, il faut des témoins, des ufologues, l'armée ou les gendarmes, et les médias.
Alors là, vous avez le cocktail parfait.
Et des OVNI, évidemment. Et des...
Ah ça,
ah, mais ah, ça ah, 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 et ça, c'est la question. Merci beaucoup, Franck Istaz, d'avoir été avec nous. On rappelle le nom de votre podcast Entre mystère et secret.
La fascinante histoire des ovnis.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous dans l'Histoire continue.
Avec plaisir.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.